Bonjour à tous et à toutes, Florence Westergaard pour vous présenter ce nouveau podcast Escale. Cette semaine avec Martin Kramp, coordinateur technique au Centre international de coordination des systèmes d'observation météo-océanographique, OceanOps, nous allons voir comment la plus grande course à la voile autour du monde en solitaire, le Vendée Globe, aide les scientifiques à préserver les océans.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus en ce dimanche 8 novembre. Nous allons vivre dans quelques instants un moment exceptionnel qui n'a lieu que tous les 4 ans.
Le Vendée Globe est la plus grande course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Cette course est née le 26 novembre 1989 avec 13 marins prenant le départ de la première édition. Ils ne seront que 7 à rentrer au Sable d'Olonne en France. Cette année, le Vendée Globe a démarré le 8 novembre dernier et c'est un véritable défi que 33 skippers de 10 nationalités sont prêts à relever. Certains de ces navigateurs ont embarqué des instruments scientifiques sur leur bateau pour aider à collecter des données dans des endroits difficiles d'accès. Martin Kramp explique comment tout a débuté.
Je travaille pour OceanOps, qui est un centre partagé entre deux agences des Nations Unies, donc Organisation Météorologique Mondiale basée à Genève, OMM, puis la Commission Océanographique Intergouvernementale de l'UNESCO basée à Paris. Et OceanOps est hébergé par le Centre de Recherche Marine Français IFREMER à Brest. Moi, je suis coordinateur navire dans ce centre, qui est donc un centre de coordination et monitoring du système mondial d'observation de l'océan. Et donc moi, dans mon rôle de coordinateur navire, je m'occupe pour une partie, bien évidemment, des navires de recherche. Mais avec les navires de recherche, ils ne sont pas très nombreux, on ne peut pas faire... On ne peut pas couvrir l'océan intégral. Donc, je suis aussi coordinateur pour le navire d'opportunité. Donc, on cherche à travailler avec le bateau de commerce, navire de commerce, le porte-container, navire de pêche. Et on cherche souvent des solutions pour accéder aux zones où il y a peu d'autres bateaux, notamment dans l'hémisphère sud, autour de l'Antarctique. Il y a donc très peu de bateaux. Et moi, j'ai un arrière-plan un peu de course au large aussi. J'ai travaillé avec la voile, dont ça semble une autre vie maintenant. Mais j'ai un bon lien avec la communauté voile. Et donc, la course au large et les courses autour du monde, ils vont régulièrement donc, dans ces zones au sud des Grands Caps où il y a peu de moyens pour collecter les données. Et les derniers 10 ans, on a donc formé une coopération, un partenariat avec cette communauté qui nous aide donc à mettre soit des instruments autonomes dans l'eau, des bouées dérivantes ou des flotteurs Argo, par exemple, ou d'installer vraiment un instrument à bord qui collecte des données tout le temps, n'importe où le bateau se trouve.
L'idée d'utiliser la course au large comme outil océanographique date des années 2000.
Si on va un peu dans le passé, avec le COP21 en 2015 à Paris, on a signé un premier grand partenariat avec la classe IMOCA. Donc, tous les bateaux qui sont dans le Vendée Globe sont de ce type de bateaux. Et avec cette classe, on a fait un partenariat, donc la première fois en 2015. Et le Vendée Globe est parti la dernière fois en 2016. Et en 2016, cette communauté n'était pas encore prête, je dirais, mais il y a un vrai changement dans cette communauté de skippers aussi. Eux, ils ont souvent en mer, eux, ils voient très bien comme l'océan, comme il change. Ils ont aussi envie, en grande partie au moins, d'assister à nos besoins scientifiques et aussi pour en parler au grand public. Et donc là, en 2020, on avait vraiment cette chance qu'une grande partie des skippers étaient partants et a dit « Ok, même si ce n'est pas encore standardisé, même si on n'est que 12 sur 33 qui assistent, même si ça veut dire que je prends 20 voire 40 kg supplémentaires pour une partie de la course, je vais le faire quand même parce que c'est quelque chose du bien. » Ça va au-delà de l'aspect sportif et ça aide la science autour de climatologie, mais aussi pour les observations de demain. Sachant que là, si un navire en mer, il transmet ses données météorologiques, ils ont traité en temps réel. Et 6 heures après, le navigateur va télécharger son dernier bulletin météo. Et s'il était dans une zone où il y avait peu d'autres données, donc le temps en mer ne change pas, mais la prévision, la qualité peut vraiment augmenter. Donc, c'est une situation gagnante-gagnante.
Voilà, le moment est venu de larguer notre bouée météo. Donc, je suis vraiment ravi de participer à cette action. Donc, c'est une bouée météo qui va récolter des données. Une fois que je vais avoir largué cette bouée à l'eau, elle va récolter des données qui va être utile évidemment aux chercheurs pour étudier un petit peu l'état des océans et voir un petit peu comprendre l'évolution de notre planète avec cette évolution des océans.
Des skippers tels que Manuel Cousin ont choisi d'embarquer des bouées opérées par Météo France. Ces bouées permettent de compléter les données satellitaires en mesurant la température de la mer en surface, la pression atmosphérique ainsi que le courant de surface. Elles envoient ces données extrêmement précises au réseau international de données de l'Organisation météorologique mondiale, permettant ainsi aux prévisionnistes et aux scientifiques du monde entier d'accéder aux informations gratuitement.
Le flotteur autonome qu'on a donné au Vendée Globe cette année, il y a 7 bouées dérivantes qui étaient données par une communauté européenne qui s'appelle eSurfMass et autour de eMetNet, donc c'est plusieurs pays européens qui financent. Et les 3 flotteurs Argo, c'était Argo France, donc le programme français géré ici à l'IFREMER, qui a donné des instruments. Par contre, les autres instruments qui sont durement installés à bord, et ça c'est l'autre grande nouveauté, étaient financés par les équipes. Donc, eux, ils ont parlé avec leurs partenaires, avec leurs sponsors, et ont dit, on pourrait faire un programme scientifique autour du programme Vendée Globe. Par contre, j'ai besoin de financement, et on avait cette chance que quelques partenaires ont dit, OK, on veut assister à cet effort-là, et ont financé les instruments à bord.
Près de 30% du CO2 émis par les humains est absorbé par l'océan, avec pour conséquence la hausse de la température et de l'acidification des océans. En outre, chaque année, 8 à 15 millions de tonnes de plastique sont déversées en mer, des déchets qui bouleversent la biodiversité marine. Les skippers sont les premiers témoins de la dégradation des océans.
Ils nous ont dit, on a vu des vaches qui flottaient dans l'eau, on a vu des machines à laver, on a vu du plastique partout. Donc là, ils ont des impressions qui sont assez négatives. Et là, justement, tout à l'heure, j'ai parlé avec Boris Herman, qui est un des Vendée Globistes actuels, pour justement planifier le déploiement de son flotteur Argo. Et il disait, bah, dis donc, les sargasses, cette année, c'est incroyable comment ils sont présents déjà dans cette partie très est de l'Atlantique Nord. On n'a jamais vu ça avant. Et donc là, ces tubes d'effet, c'est pour eux, ils ont en premier rang pour voir ça. Après, dans les courses au large autour du monde, dans l'hémisphère sud, il faut faire attention avec la glace. Donc, les icebergs qui dérivent vers le nord, il faut les éviter. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une zone de sécurité. Et là aussi, cette année, c'est une année un peu particulière, mais dans le passé, on avait déjà l'impression qu'on ne peut pas plus jamais pouvoir battre le record parce que la zone, elle vient de plus en plus nord. Et en conclusion, la route est de plus en plus longue.
La skippeuse Alexia Barrier est en mission pour le climat pendant le Vendée Globe. Sur son voilier, elle garde une balise qui est mise à l'eau tous les 10 jours et descend à 2 000 mètres de profondeur. Elle sert à récolter des données sur la salinité et la température de l'eau. Les résultats sont ensuite envoyés vers une banque de données mondiale accessible à tous. Elle raconte.
C'est super, super important pour les observateurs de l'océan car il n'y a pas de données in situ là où je me trouve aujourd'hui. En tant que skipper, j'ai vu ces dernières années des évolutions sur l'environnement. Tout d'abord, depuis 10 ans, une évolution drastique du nombre de macro-déchets présents dans l'eau et également une intensification des phénomènes météo. Ça, c'est évidemment dû directement au changement climatique. J'ai envie d'être utile à la planète. C'est notre bateau, notre radeau. Et il faut vraiment en prendre soin pour continuer à vivre en harmonie avec toutes les espèces vivantes qui peuplent notre planète et qui sont gravement en danger. La biodiversité est gravement en danger. L'océan, source de vie, est aussi gravement en danger. Donc c'est pour ça que pour moi, il est important d'agir. Et chacun peut agir aujourd'hui à son échelle. On peut tous être des citoyens engagés, des héros pour la planète bleue.
Instruments scientifiques déployés sur le Vendée Globe. Martin Kramp.
Alors, si je prends les 2 types d'instruments autonomes qu'on déploie cette fois dans le Vendée Globe, il y a les bouées dérivantes de surface, fournies par eSurfMass via Météo France. C'est un instrument qui pèse autour de 20 kg, c'est une sphère avec un ancre flottante derrière qui permet que l'instrument va dériver qu'avec le courant de surface et très peu à cause du vent. Ce qu'on veut mesurer, c'est le courant de surface. Et là-dedans, il y a donc un baromètre aussi. Et une fois par heure, on envoie l'ensemble des données pression atmosphérique, la position pour la dérive, puis la température de l'eau de mer, ça aussi. À terre, et dans ces cas-là, via Météo France, c'est partagé avec la communauté internationale en temps réel. Donc les différents services météorologiques, à ces moments-là, ils ont un système intégré pour partager ces données, données qui arrivaient chez Météo France à midi, quelques secondes après, il est à disposition aussi d'un météorologue en Australie. Pareil pour le flotteur Argo. Le flotteur Argo, ça c'était une vraie révolution pour les océanographes. Donc, bouée dérivante, il y a environ 1500 en mer actuellement. Flotteur Argo, il y en a 4000 en mer. Et le flotteur Argo, il plonge dans la colonne d'eau. Le flotteur standard qu'on déploie dans ces cas-là ici, il plonge à 1000 mètres le premier jour. Puis le 9e jour à 2000 mètres et remonte 10e jour. Il arrive en surface, dans la colonne d'eau, il mesure conductivité et température. Avec ça, on peut donc calculer la salinité. Il arrive en surface, il envoie ses données, il replonge, et ça en autonomie pendant 5, 6, 7 ans. Et donc ça permet aux chercheurs de regarder à l'intérieur de l'océan, ce qui avant était très, très, très compliqué à faire. Donc ça permet de faire plusieurs choses à la fois à court terme, des prévisions même qui sont de valeur pour les navigateurs à nouveau. Après, ça permet à moyen terme de prévenir au cas de il y a un El Niño ou la Niña qui s'installe et à long terme, bien évidemment, combien de chaleur va dans l'océan et les courants en profondeur. Et tout ça grâce à ces flotteurs Argo. Et là, à nouveau, il y a deux centres de données globales pour partager ces données, dont un centre ici à l'Ifremer à Brest. Les données arrivent, ils ont traité tout de suite et mis à disposition des chercheurs du monde entier.
Grâce à des bateaux performants, les skippers pensent atteindre leur destination finale dans les 70 jours. La technologie de ces bateaux a beaucoup évolué. Ils sont de plus en plus équipés d'outils et d'instruments qui sont respectueux dans l'environnement. Pour Martin Kramp, ce sont des vrais oiseaux de mer, ce qui peut représenter un défi pour OceanOps et la collecte des données.
Là, la technologie des bateaux a aussi changé pas mal. Donc maintenant, ils volent. Ce qui nous a compliqué un peu les choses, parce que pour mesurer quelque chose, pour mesurer la salinité, etc., il faut qu'on ait accès à l'eau. Maintenant, ils volent cette dernière génération de la classe IMOCA. Donc, c'est devenu un peu plus compliqué, mais ça fonctionne quand même. Il faut énergie à bord de ces bateaux-là, aussi pour la science. Et il faut un moteur pour des raisons de sécurité. Donc, il y a déjà des bateaux qui ont remplacé le moteur classique diesel par un moteur électrique. Il y a des turbines à l'arrière, on appelle ça un hydrogénérateur, qui font avec la vitesse du bateau de l'électricité. Il y a bien évidemment des panneaux solaires et des fois aussi des éoliennes. Et tout ça, le mode de fonctionnement pour l'énergie, ça a bien développé ces dernières années.
La dernière ligne droite. Après un peu plus de 2 mois en mer, les leaders du Vendée Globe sont en pleine remontée de l'océan Atlantique, qui doit les mener jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne avant la fin du mois de janvier. Le suspense est à son comble. Mais le plus grand espoir pour Martin Kramp pour la prochaine course du Vendée Globe dans 4 ans, c'est que tous les bateaux soient équipés d'équipements scientifiques.
Pour le futur, ce que nous espérons, c'est donc d'établir une règle générale que comme il est obligatoire d'avoir un radeau de survie à bord, par exemple, que ça devient aussi obligatoire d'avoir un système scientifique à bord de tous ces navires. Ça permet de collecter le même type de données par plusieurs navires au même temps qui vont quand même toujours dans plus ou moins la même zone. Donc on peut comparer entre les différentes éditions du Vendée Globe dans ces cas-là, mais aussi avec les autres courses. On a vu aussi dans cette communauté voile en général un vrai envie de travailler ensemble. Il y a le Vendée Globe, mais il y a The Ocean Race, il y a Clipper Race Around the World, il y a aussi des rallyes avec des familles qui partent faire un grand voyage autour du monde. Et là, donc, on a une vraie communauté, voile et la science, Sailing for Science, qui se développe autour de ça, qui essaie à trouver un chapeau, un programme parapluie pour bien travailler ensemble, pour que les données soient comparables et pour faire un grand effort tous ensemble. Et cette intégration entre les différents programmes d'observation, entre les différents projets, c'est très important pour le succès de ce type de programme.
Et c'est ainsi que se termine notre podcast Escale consacré au Vendée Globe, la course à la voile autour du monde en solitaire sans escale. Merci à Martin Kramp et aux skippers qui participent à ce projet qui aide à récolter des données scientifiques afin d'étudier l'impact du réchauffement climatique sur les océans. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité. À la prochaine fois pour un nouveau podcast Escale.